Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, et on parlera tout d'abord des réactions multiples en Europe après la peine d'inéligibilité immédiate prononcée à l'encontre de la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, condamnée par ailleurs à 2 années de prison pour détournement de fonds publics, en l'occurrence l'argent du Parlement européen. Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a posté sur X « Je suis Marine ». Une déclaration de guerre de Bruxelles, a estimé le vice-premier ministre italien Matteo Salvini, sans oublier le leader d'extrême droite néerlandais Geert Wilders, qui se dit choqué. Quant au Kremlin, il a saisi l'occasion pour donner une leçon de démocratie à l'Occident, tout en disant ne pas vouloir interférer dans les affaires intérieures de la France. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Il n'aura malgré tout fallu que quelques minutes après l'annonce de la condamnation de Marine Le Pen pour que le Kremlin se fende d'une réaction officielle. De quoi donner l'impression que les autorités russes venaient à la rescousse du seul dirigeant de parti français qui ait rencontré Vladimir Poutine en personne, alors qu'aucune banque européenne n'acceptait à l'époque de financer le Front National, devenu depuis Rassemblement National. Répondant à la question d'un journaliste, le porte-parole du Kremlin a estimé qu'en Occident, la violation des normes démocratiques était un phénomène croissant et qu'on ne se gênait pas dans les capitales européennes pour déborder du cadre démocratique dans les processus politiques. Une façon pour le Kremlin de répondre par la critique aux multiples attaques dont le système politique russe est victime de la part des chancelleries occidentales depuis de longues années et d'adresser une pique à l'Élysée qui ne se prive pas de critiquer la Russie, qualifiée récemment de menace existentielle par Emmanuel Macron. Dans ces conditions, et comme à son habitude, Moscou pointe les fonctionnements démocratiques qui suscitent des polémiques au sein des pays occidentaux, des propos repris par les médias et les journaux télévisés qui laissent penser à la population que le fonctionnement des démocraties occidentales connaît lui aussi quelques accrocs.
Des centaines de milliers de manifestants au bas mot, plusieurs millions selon les organisateurs. L'opposition s'est déployée en masse en Turquie ce week-end pour dénoncer l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui est aussi le seul opposant de taille au président Erdogan, la liberté de parole bafouée, l'absence de perspective économique. Les jeunes et particulièrement les étudiants étaient en tête de cortège. Anne Anglauer a pu les rencontrer.
Dans l'arrière-salle d'un petit café de la capitale, Ankara, Eren se remarque tout de suite. Elle a des cheveux rouges, un anneau sur le nez, de petites lunettes noires et une façon de parler qui transforme chaque réponse en un long plaidoyer. Eren veut devenir avocate. Elle a participé à toutes les manifestations contre la détention d'Ekrem İmamoğlu dans les rues et sur le campus de son université.
İmamoğlu est devenu un symbole et un catalyseur. Personnellement, et je pense que c'est le cas pour la plupart des étudiants, ma colère va au-delà du sort d'İmamoğlu. Bien sûr que je le soutiens, il est le plus grand rival d'Erdogan pour la prochaine présidentielle et c'est sans doute pour lui que veulent voter la plupart des jeunes. Mais si je manifeste, c'est aussi parce que j'en ai assez. J'ai 23 ans et depuis 23 ans, je n'ai connu d'autres dirigeants qu'Erdogan. Je n'ai jamais vu mon pays gouverné par d'autres idées que celles d'Erdogan. Je sors dans la rue parce que les violations des droits ont commencé bien avant ce qu'ils ont fait à İmamoğlu.
Eren et ses amis appartiennent à cette jeunesse turque qui s'est imposée dès le début, au premier rang de la contestation. Ces jeunes n'étaient que des enfants à l'époque de Gezi en 2013, quand des millions de manifestants s'étaient révoltés des semaines durant contre la destruction d'un parc sur la place Taksim d'Istanbul. Cette génération post-Gezi, certains la disaient apolitique. Certes, hostile à Recep Tayyip Erdogan, mais pas engagée pour autant. Pour Öşük, une autre étudiante habituée des manifestations féministes, c'est un cliché.
Non, il n'y a pas de jeunesse apolitique. Il y a une jeunesse qu'on essaie de rendre apolitique. Le pouvoir utilise différents canaux. Il le fait à travers les médias. Il le fait en fermant les organisations étudiantes au sein des universités. Il le fait en ouvrant des procès pour interdire les associations qui luttent pour nos droits. Quand je discute avec d'autres jeunes de mon université, moins engagés, je ne les considère jamais comme apolitiques. Mais c'est vrai que quand il y avait une manifestation et que je les invitais à participer, par exemple pour le 8 mars ou le 1er mai, la plupart répondaient « Non, je ne peux pas venir.
Grâce au mouvement des derniers jours, Öcek veut croire que quelque chose est en train de changer.
Cela fait 4 ans que j'étudie dans une faculté de droit où les étudiants et les enseignants nationalistes pro-pouvoir sont majoritaires. Et même là, je vois que certains commencent à changer d'avis ou d'attitude, que d'autres surmontent leurs peurs et viennent manifester. Ça se fait lentement, mais sûrement. Et je pense que ça va continuer. Quelque chose est en train de se briser. Ça me donne de l'espoir.
N'aie pas peur, ne te tais pas, sinon ton tour viendra. Ces slogans ont beaucoup de succès parmi les jeunes manifestants. Acelia et Soudé, 19 ans toutes les deux, sont dans la rue pour leur avenir. Elles parlent de l'inflation à 2 chiffres des 8 dernières années qui les empêchent, disent-elles, de profiter de leur jeunesse, de voyager, des perspectives d'avenir bouchées, de leur crainte de devoir vivre dans une Turquie où personne n'est libre, où même le vote ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'elles sont là, malgré les risques, malgré la police.
Avec toutes les injustices, les décisions illégales, les violations des droits que ce pouvoir fait subir à notre pays, c'est aussi l'avenir des jeunes qu'ils sont en train de voler. Et on en a vraiment ras-le-bol. Moi, je ne me reconnais dans aucun parti, dans aucune idéologie. Comme beaucoup, je suis uniquement là pour défendre mon avenir et mes droits.
Exactement, le président veut désormais choisir ses opposants, éliminer ceux qui peuvent le battre. Ils ont annulé le diplôme d'Imamoglu avant de l'arrêter. Pourquoi n'annulerait-il pas aussi le mien? Ce pouvoir n'a plus aucune limite, les gens s'en rendent compte. C'est pour ça que les jeunes sont descendus dans la rue tout de suite, dès la première étincelle.
Le politologue Ahmet İnsel rappelle que le mécontentement grondait déjà depuis longtemps dans une partie de la jeunesse. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu a fait déborder le vase. D'autant que, souligne Ahmet İnsel, le profil d'Ekrem İmamoğlu séduit beaucoup de jeunes Turcs, y compris ceux qui ne s'intéressent pas plus que ça à la politique.
İmamoğlu n'est pas un politique radical, il n'est pas un politique qui représente un affrontement. Il est un peu vraiment représentatif de quelqu'un de classe moyenne, bon parleur, travailleur, etc., etc. Mais il n'est pas dans une logique d'affrontement excessif. Donc du coup, je pense que ça correspond aussi un peu à l'image que se font les nouvelles générations.
Mais les nouvelles générations, le CHP et l'opposition turque au sens large, vont certainement devoir se trouver un nouveau champion pour la prochaine présidentielle, prévue au plus tard en 2028. À moins d'un revirement imprévu, l'annulation de son diplôme universitaire empêche d'ores et déjà Ekrem İmamoğlu d'accéder à la tête de l'État.
Et alors que le pouvoir table sur un essoufflement du mouvement, d'autres manifestations sont prévues mercredi et samedi prochain. La répression est féroce, près de 2000 arrestations et plus de 260 incarcérations selon les chiffres officiels. Et parmi eux, un journaliste suédois arrêté dès son arrivée en avion pour terrorisme. L'instabilité mondiale, l'inflation et les frais de fonctionnement des galeries qui explosent, tout cela impacte directement le marché international de l'art. Reportage à la grande foire de Londres, la London Art Fair, signé Marie Billon.
À première vue, le marché de l'art britannique a l'air en pleine forme. Le centre des congrès d'Angel dans le nord de Londres grouillait de monde lors de la London Art Fair. Nikki French, fondatrice de la galerie itinérante The Finch Project, travaille dans le monde de l'art contemporain depuis 14 ans, mais son enthousiasme est désormais assombri par une certaine inquiétude.
Oui, 2024 a été une année calme pour tous les acteurs du marché de l'art, depuis les galeries de premier plan jusqu'aux petites galeries comme la mienne. Je pense que le marché est probablement saturé, avec beaucoup plus de galeries qui ouvrent, plus d'artistes, simplement, oui, plus de gens impliqués. C'est un marché qui est rendu plus difficile avec ce qui se passe dans le monde, l'économie, les guerres, et cela affecte directement nos ventes.
Des acheteurs, des collectionneurs, il y en a beaucoup ici. Peter passe de stand en stand. Sa préférence va à la peinture, mais il se dit prêt à investir dans sa première sculpture.
Je suis ici parce que j'aime l'art et j'aime acheter de l'art. Enfin, l'art qui m'est abordable. Personnellement, comme beaucoup de gens, je réfléchis à deux fois en ce moment. L'économie est faible ici au Royaume-Uni et en Europe en particulier. Je suis un peu plus prudent et je réfléchis un peu plus longtemps. Pour ma part, je vais aux foires d'art, je vois un large éventail d'œuvres. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je visite la galerie par la suite et j'achète à ce moment-là. Tout le monde aime négocier. Alors oui, nous avons toujours une conversation avec l'artiste ou le galeriste. Je pense que pour mes derniers achats, j'ai bénéficié d'une petite remise.
Peter aime découvrir de nouveaux artistes, mais comme beaucoup, il pourrait décider de se réfugier dans une valeur sûre. Une artiste déjà reconnue. C'est un investissement plus solide. Willoughby Garish, de la galerie éponyme, basée à Londres et à York, a saisi la tendance.
Je pense que le marché a été comprimé. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous concentrer sur les 10 ou 20 grands noms. Parce que ce sont des noms internationaux qui marchent. Je pense que c'est la clé.
La pièce principale de Willoughby à cette foire est la Stringed Figure, que le sculpteur britannique Henry Moore a créée en 1936. Se concentrer sur les valeurs sûres, cela veut dire moins d'opportunités pour les jeunes artistes, en tout cas dans les galeries traditionnelles, qui doivent payer un loyer de plus en plus élevé dans le centre de Londres, comme Willoughby. Nikki French, elle, a choisi un autre modèle.
Nous sommes en fait nomades dans notre modèle d'entreprise. Nous n'avons donc pas de locaux fixes, mais nous organisons régulièrement des expositions et participons à diverses foires. Notre modèle est très actif et progressif.
Abigail Norris se tient à côté de sa sculpture installée au premier étage du centre des congrès. C'est la nature agressée qu'elle représente à travers ses œuvres. Abigail est une jeune sculptrice. Elle a travaillé dans le cinéma ces 20 dernières années, mais a récemment décidé de se dédier à sa passion, et ça n'est pas facile.
Les investisseurs veulent faire des placements sûrs et choisissent des artistes qui sont déjà bien établis. Probablement plutôt des hommes aussi. Ce n'est pas évident d'investir dans un artiste émergent. Je pense qu'il y avait un marché pour cela il y a quelques années. Les travaux des nouveaux artistes se vendaient à des prix assez élevés. Aujourd'hui, la valeur de ces œuvres d'art a baissé dans de nombreux cas, ce qui rend le marché très difficile.
Les jeunes artistes ont besoin plus que jamais de mécènes, des connaisseurs surtout qui croient en eux et qui promeuvent leur travail. Les acheteurs font confiance aux spécialistes, aux acteurs du marché de l'art, ses représentants. Nikki French fait partie de ces VRP des artistes en début ou milieu de carrière. Elle voyage beaucoup pour les représenter et vendre leurs pièces, mais elle a du plomb dans l'aile et ce plomb s'appelle Brexit.
Le Brexit a évidemment causé d'énormes problèmes pour tout le monde. Rien que pour faire du commerce, c'est plus de paperasse. Il y a des droits de douane qui doivent être pris en compte. Donc oui, les coûts impliqués sont assez élevés. Cela dépend du pays, mais c'est généralement 5% pour faire venir des œuvres européennes au Royaume-Uni, par exemple, et 6% pour la Belgique. Je pense que la France est également soumise à un taux d'environ 5%. Ces coûts supplémentaires ont donc parfois une incidence sur les ventes.
Ce pourcentage est à payer quand une œuvre voyage, pour être vendue mais aussi pour être exposée. Réduisons encore un peu plus. Dans un contexte économique et international déjà hostile, la variété des œuvres et les opportunités pour les nouveaux acteurs du monde et du marché de l'art.
Bonjour Charlotte Guichard.
Bonjour.
Vous signez avec Sophie Crasse aux éditions du Seuil un livre passionnant intitulé « Vendre son art » où l'on suit avec l'aide d'une riche iconographie la manière dont l'art a su utiliser le contexte économique pour mieux se négocier. Alors comme on l'entend dans le reportage de Marie Billon à la London Art Fair, l'artiste n'est pas ce créateur isolé sur son rocher. En fait, il est forcément aux prises avec la marche du monde, la crise économique ou les guerres.
Oui, tout à fait. Le reportage est vraiment très édifiant sur ce point. On entend la voix d'une jeune artiste, une jeune sculptrice. C'est vrai que comme on a voulu le montrer dans ce livre, les artistes sont complètement en prise avec un univers économique. Mais c'est vrai qu'une des choses qu'on a voulu montrer, c'est que contre l'idée assez commune d'une très forte spéculation dans les mondes de l'art, eh bien la spéculation, en fait, elle touche beaucoup moins le premier marché que le second marché, c'est-à-dire le marché de la revente. Ce qu'on veut montrer, en fait, c'est que lorsque l'économie se développe, ce qui est potentiellement le lieu de spéculation, c'est davantage les grands noms, comme on l'entend dans le reportage qu'on a entendu disais en début d'émission, plutôt que les artistes vivants, qui sont en général des jeunes artistes ou des artistes émergentes. Et nous, on a vraiment voulu se centrer sur ce marché des artistes.
Des grands noms qui, parfois, se rebellent contre ce monde économique dans lequel ils sont insérés. On pense notamment à Banksy, on pense à Damien Hirst, qui, parfois, par des coups un petit peu très médiatiques, veulent dénoncer cette spéculation du second marché, de la revente de leurs œuvres dont vous parliez.
Oui, alors, est-ce que c'est vraiment une révolte? C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a une vraie ambiguïté, en fait, de ces gestes artistes, que ce soit celui de Banksy ou celui de Damien Hirst, qui sont abordés dans le livre.
Qu'on peut peut-être rappeler, d'ailleurs.
Qu'on explique dans le livre que les artistes vivants ont été exclus d'un univers qui est celui de la vente aux enchères. Et donc, les deux exemples que vous donnez, celui de Banksy en 2018, lorsque il fait ce qu'on appelle un casse, en fait, où voilà, il fait se déchirer une œuvre qui vient tout juste d'être mise en vente. Donc ça, c'est Banksy en 2018. Voilà, Damien Hirst en 2008 qui avait mis ses œuvres directement aux enchères. Et voilà, il les avait vendues à des amateurs et collectionneurs potentiels. Et donc, ce faisant, ces deux artistes qui connaissent très bien la manière d'utiliser les médias, etc., dénonçaient l'exclusion des artistes de l'univers des ventes aux enchères. Pour autant, ils le dénonçaient, mais ils ont aussi réussi à se servir de cette mise en scène dans leur carrière. Et donc, ils ont aussi réussi à tirer valeur économique, symbolique de ces gestes artistes. Donc, c'est là où il y a une ambivalence, si vous voulez. C'est qu'il y a à la fois une dénonciation, en tout cas une ironie, une parfaite compréhension des mécanismes économiques qui président aux ventes aux enchères, et en même temps un détournement à la fois ironique et irréflexif.
Et ce qui est intéressant, puisque je le disais, votre livre a une très riche iconographie, c'est de voir à quel point cette question marchande, cette question commerciale, finalement, elle est représentée.
Oui, elle est représentée et de manière parfois inattendue. Vous faites peut-être allusion au tableau de Tulipe dans l'ouvrage voilà qu'on a illustré. Où c'est vrai que on prend ce qu'on aurait tendance à appeler une nature morte. Enfin voilà, de l'école hollandaise du XVIIe siècle, c'est un tableau qui a été peint au moment d'une des premières bulles spéculatives européennes, la bulle des tulipes aux Pays-Bas. Et l'artiste.
Où les Européens et surtout les Hollandais investissaient en masse dans ces bulbes de tulipes qui pouvaient atteindre des sommes folles, qui ont fait la richesse de la Hollande.
Voilà, c'est ça, et jusqu'au crash à la fin des années 1620. Et en fait, ce qui s'exprime dans ce tableau-là, c'est pas simplement la nature, mais c'est en fait les débuts d'un capitalisme financier, d'un capitalisme extractif, conquérant, et d'un enrichissement des Pays-Bas, aussi dans un contexte de globalisation du marché et du capitalisme, puisque les Pays-Bas sont alors une puissance impériale majeur sur la scène européenne.
Et puis il y a ce tableau beaucoup plus contemporain et très ironique de Chéri Samba, l'artiste africain qui dénonce le contrat signé avec un galeriste.
Oui, c'est-à-dire que là encore, en fait, ces œuvres, elles sont souvent assez énigmatiques, c'est-à-dire qu'elles sont souvent ambivalentes. Et dans le tableau de Chéri Samba, encore une fois, on voit la complexité des relations qui se tissent entre l'artiste et ses interlocuteurs marchands.
Il se présente la corde autour du cou avec des entraves aux pieds.
C'est ça. En gros, il aurait été entravé par les contrats que lui aurait fait signer un marchand. Et donc, il se plaint de cette situation qui fait aussi référence à l'histoire longue de l'esclavage dans l'iconographie du tableau. Et à la fois, Chéri Samba se plaint et en même temps, il explique que c'était aussi un moment de reconnaissance. C'est-à-dire que ces contrats exclusifs, contraignants pour les artistes, leur assurent aussi une stabilité dans la rémunération. Donc ils sont à la fois recherchés et craints.
Merci beaucoup Charlotte Guichard. Je rappelle le titre de votre livre « Vendre son art » qui paraît aux éditions du Seuil.
Merci à vous.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. À suivre tout de suite le débat du jour avec Romain Ozoui, sauf en Afrique de l'Ouest où RFI vous propose 30 minutes d'information en pôle.